cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe le 9 novembre l'an 2000 à Saint-Jean-d'Arc.
Je lis la question qui est demandée dans l'avant-dernier cours. Vous disiez qu'on est attiré par un bien, mais que le bien n'est pas l'être. Le bien est, il n'est pas l'être. Attention, il ajoute quelque chose à l'être, oui. Il n'est pas la raison d'être, mais il ajoute quelque chose à l'être. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que cela veut dire que le bien ajoute une perfection à l'être? Cependant, parmi les réalités qui existent, certaines nous attirent, d'autres ne nous attirent pas, mais elles existent toutes en acte. Oui. Alors, c'est la distinction entre l'être et le bien. Tout ce qui est bon existe. La bonté n'est pas un idéal. L'idéal, c'est ce qu'on imagine qui existe ou qui n'existe pas. Donc, le bien implique l'existence. On n'aime que ce qui existe. Alors, au plan métaphysique, on regarde la réalité. La bonté, on la regardera explicitement en philosophie morale. Mais au terme de cette analyse de l'être en acte, puisqu'on s'est posé la question, ce en vue de quoi l'être est. C'est cette question que s'est posée, la question de la finalité. Est-ce que l'être en lui-même fonde la finalité? C'est ça la question. Est-ce que la finalité est uniquement du côté du bien? Lorsque l'on recherche ce que représente ce qui est, on se pose la question, savoir ce en vue de quoi. Et c'est pour ça qu'on constate l'imparfait ordonné au parfait. Tout ce qui est imparfait est ordonné à ce qui est parfait. Et on le voit dans les différents aspects de la réalité pour pouvoir dire c'est vraiment l'être comme tel qui implique le point de vue de la puissance et le point de vue de l'acte. Toute l'induction que nous avons faite montre que c'est à partir de l'être qu'on a fait. La distinction qu'on fait entre l'être et le bien, c'est une distinction de notre intelligence. Nous voulons creuser qu'est-ce que c'est que la réalité en tant qu'être, et ce qu'est la réalité en tant que bien. Dans la réalité, le bien et l'être, c'est la même chose, puisque tout bien est. Faut bien voir, on distingue la philosophie spéculative, la métaphysique, de l'éthique, de recherches différentes. Ce qui est, et ce qui est bon. L'amitié, on la traite en philosophie éthique. Qu'est-ce que c'est que la personne de l'ami qui m'attire? Et l'ami existe. Vous voyez, c'est une distinction que nous faisons par rapport à l'étude. Mais cette étude philosophique implique toujours le jugement d'existence. Ça, je vous l'ai dit. Tout en philosophie est lié au jugement d'existence. Je ne fais pas la philosophie des choses possibles. Je ne fais pas la philosophie de l'idéal. Je fais la philosophie des réalités. Et c'est pour ça que je pars toujours de mon expérience. Et j'essaie d'étudier l'expérience de la façon la plus précise, la plus stricte, en analysant ces différents aspects de la réalité. La réalité, elle existe. Cette réalité, elle peut être bonne. Quelle est la différence entre les deux ? Bon, alors nous reviendrons sur cette question de l'être en acte et de la bonté. Maintenant, nous étudions ce que c'est que l'être en acte. C'est-à-dire, comment, dans la réalité, nous pouvons distinguer ce qui est acte, c'est-à-dire ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Et vous définissez l'acte toujours négativement, comme les principes. Les principes ne peuvent pas se définir autrement, négativement. Une source, vous la définissez, ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. On cherche une source, on va le plus loin possible, et puis à un moment, on ne la retrouve plus. On a tous fait ça, hein, quand on était gosse. On a remonté la source, plus loin possible, on la voyait, puis à un moment, plus rien, négativement. Et on dit, ah, c'est là. Et puis on creuse, et puis on s'aperçoit que c'est bien ça. C'est une source sagesse. Et tout principe est une source. Tout principe est une source. L'être en tant que le principe de l'être, c'est une source d'existence, d'être. Alors, ce que je cherche maintenant, c'est de voir, puisque l'être en puissance et l'être en acte est quelque chose de difficile à atteindre. C'est là où l'intelligence est la plus aiguisée. Saisir l'être en acte, c'est vraiment l'ultime intelligibilité, l'ultime connaissance que j'ai de l'être, ce qui est en acte. Quand je dis qu'il est en acte, je dis quelque chose de spécial. Bon, pour bien le comprendre, nous allons regarder comment l'acte se trouve réalisé diversement dans toutes les parties de la philosophie et par rapport à mes diverses expériences. Ça permet d'avoir une connaissance de l'être en acte beaucoup plus précise chaque fois. Parce que l'être en acte, c'est pas commode. Hein. Et préciser que l'être en acte ne dépend pas de l'être en puissance, mais que c'est l'être en puissance qui dépend de l'être en acte, ce qui est en puissance est toujours ordonné à l'être en acte. Tandis que l'être en acte peut exister sans la puissance. Oui. Parce que très facilement, on reste dans une position dialectique. Il faut briser cette connaissance dialectique. Il faut aller au-delà. Parce que la connaissance dialectique n'est pas philosophique. Elle est psychologique. Psychologiquement, on voit très bien ce qui est en acte, ce qui est parfait, ce qui est imparfait. Ça, j'en ai l'expérience d'un être imparfait et d'un être parfait. Je peux opposer les deux. L'être imparfait a des faiblesses. L'être parfait n'a pas le droit d'avoir de faiblesses. Il doit être toujours lui-même. Bon, je peux très bien décrire ça. C'est intéressant, mais je veux aller plus loin. Je veux atteindre par l'intelligence, et seulement par l'intelligence, au-delà du sensible, au-delà de l'imaginaire. Je n'étudie pas les étangs. Je veux saisir vraiment l'être que mon intelligence est capable de saisir et de saisir dans l'être ce qui est premier. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Et ceci correspond à l'interrogation en vue de quoi est l'être. Alors, pour mieux le saisir, je regarde les réalisations de cet acte par rapport à ce que j'ai déjà atteint dans les diverses parties de la philosophie. La première chose que je me pose, c'est les relations entre la substance et l'acte. La substance, nous l'avions saisie, c'était le cours de l'année dernière. La substance, elle est principe, première, selon la recherche de la cause formelle, selon la détermination. La détermination foncière de l'acte, c'est la substance. Toutes les autres déterminations dépendent de la substance. Et la substance est première. La substance, en tant qu'elle est première, je la saisis ou je la saisis pas. C'est ce que dit Aristote toujours par rapport au premier. On ne démontre pas un premier. On ne démontre pas un principe. Un principe n'est jamais une conclusion. La conclusion est toujours relative à quelque chose de premier. Donc ce qui est premier doit être saisi d'une façon particulière. Et ce qui est premier ne peut être saisi que par une induction. On a deux mouvements dans l'intelligence, le point de vue de l'induction et le point de vue de la déduction. Déduire quelque chose, ça se déduit à partir de quelque chose qui est premier. Alors on le déduit, c'est une conclusion. Et une conclusion est toujours relative. Toute conclusion. J'ai jamais le droit de m'appuyer sur une conclusion comme sur quelque chose d'absolu. C'est très important, ça. Conclusion est toujours quelque chose de relatif. Tandis que le principe est premier. Donc un principe ne peut pas être relatif à un autre principe. Comme principe. Forcément. Ce qui est premier est premier. Vous ne pouvez pas mettre la substance relative à l'acte. Vous avez deux principes, la substance et l'acte. C'est très important de bien comprendre ça, parce qu'autrement, vous relativisez la substance-principe à un autre principe. Et ce n'est plus la substance. Ce que vous pouvez faire, ce qu'on doit faire au point de vue philosophique, c'est que vous regardez la substance dans sa réalisation. La substance provient d'une réalité et je cherche ce qui est premier. La substance me dit la détermination fondamentale de la réalité. Cette détermination fondamentale de la réalité, elle implique l'être en acte si cette réalité existe. En tant que je la saisis comme détermination, elle est première. En tant que je regarde si elle est, si elle existe ou si elle n'existe pas, ah, il y a un nouveau problème. Autrement dit, je vais regarder la différence qui existe quand je dis ceci, c'est la substance. Le ceci premier, c'est la substance. Et ceci est. Nous avions déjà regardé cela. Je reviens là-dessus. Pour comprendre comment l'acte, actu, je dis bien actu, sans déterminer, et c'est ça la difficulté, il faut arriver à comprendre la différence entre déterminer et actuer. Ceci, normalement, j'indique une réalité qui existe, qui est ceci. Ceci, dans ce qu'il a de tout à fait fondamental, c'est la substance. Ceci est. Je suis obligé de bien préciser ça, surtout aujourd'hui, étant donné que beaucoup, en phénoménologie, demandent de mettre l'être en abstraction, comme hypoké. On met entre parenthèses. Et on affirme que ceci et ceci est, c'est la même chose. Alors, je veux vous montrer, et vous le savez bien, que ceci et ceci est, c'est pas la même chose. Quelle différence y a-t-il entre ceci et ceci est ? C'est la première façon pour moi de bien comprendre l'acte. Parce que c'est là où je saisis l'acte dans sa première réalisation. Et je prends ceci, c'est très vague. Hein. Vous pouvez mettre un crapaud, ceci, un petit animal. Et vous pouvez prendre l'homme, ceci, un tel, ceci, et. Alors, quelle différence y a-t-il au point de vue de mon affirmation, entre ceci et ceci. C'est justement, je montre que la connaissance de la détermination d'une chose, c'est très bien. Je détermine, je donne l'essence de cette chose, je dis ce qu'elle est en disant ceci. Cet homme, ceci, il est. Quand je dis ceci est, je montre que le ceci existe dans son autonomie, dans son caractère propre, qu'il existe. Et donc, qu'il est distinct des autres ceci. Le ceci peut être pris d'une façon abstraite. Dès que vous dites que ceci est, vous dites que ceci est pris d'une façon singulière. Quelle différence y a-t-il entre l'affirmation universelle, quand vous dites « Pierre est homme »,
et quand vous dites cet homme est, voyez, le ceci, la détermination, peut ne regarder que sa détermination. Et on ne dit pas du tout qu'elle existe. On exprime sa quiddité. Si je regarde le ceci dans ce qu'il a de plus profond, c'est-à-dire le ceci qui exprime la substance de la réalité, je l'ai saisi à partir de l'existence. J'ai regardé une réalité qui existait, que je pouvais expérimenter. J'ai découvert la substance à partir de mes expériences. Donc, l'existence est présente, mais elle n'est pas explicitée. J'explicite en disant « ceci existe », j'explicite l'acte de cette détermination, de cette substance. Je l'explicite. J'explicite que cette réalité, que ceci, existe pour lui-même et par lui-même. Il est. Je pourrais après me demander si il existe vraiment, entièrement, absolument par lui-même, ou s'il dépend d'un autre. Mais dans le ceci, quand je dis ceci est, j'affirme que ceci a en lui-même sa détermination et son existence, son acte. Et en affirmant qu'il existe, j'affirme qu'il est distinct des autres. Vous voyez, je veux saisir quelle différence y a-t-il entre la détermination et l'actuation. La détermination, c'est par rapport à ce qu'on est. La réflexion du tiesti, qu'est-ce que c'est que cette réalité ? Cette réalité est un homme. Cette réalité est un animal. Cette réalité, c'est la quiddité. La quiddité de cette réalité. Donc, sa détermination. Quand je dis ceci est, j'ajoute à sa détermination sa séparation des autres. Il est en acte par lui-même. Et il est par lui-même séparé des autres, distinct des autres. Il existe. Il existe par lui-même. C'est ce qui est affirmé quand je dis ceci est. Il existe dans sa propre détermination et il est distinct des autres. Une autre réalité existe aussi par elle-même. Vous voyez, je touche la singularité de la chose. Le caractère singulier, c'est bien ça, distinct des autres et un en lui-même. Il est un en lui-même et par le fait même distinct des autres. Donc, ceci est. Je vois donc que la différence qui existe entre la découverte de la substance et la découverte de l'acte, si je les prends comme principe, ils sont deux distincts. Et réellement distincts. La substance correspond à la saisie de la détermination la plus radicale de l'être. L'acte correspond à l'actuation la plus radicale de l'être, de ce qui est. J'ai donc deux axes différents. Le point de vue de la recherche de la quiddité, ce que cette réalité est en elle-même, son essence, sa détermination, et ce qu'est cette réalité dans son existence. Je l'explicite. Vous voyez comment cette explicitation vient s'ajouter, et le langage qui exprime ma connaissance, le langage l'exprime, le mot « être », qui est le verbe le plus radical, exprime quelque chose qui s'ajoute à sa détermination, et quelque chose qui, en même temps, est cette réalité la plus en elle-même. C'est ça qui est très curieux dans l'acte. Ça s'ajoute et ça exprime en même temps ce qu'il y a de plus radical. Ceci est, ben oui, si j'envoie, si j'enlève l'être en acte, le verbe être, que je l'enlève, ceci est uniquement dans mon intelligence, il n'existe pas. Si je dis ceci est, j'affirme quelque chose non seulement qui s'ajoute, parce que quelque chose qui s'ajoute, ça peut se retirer, c'est quelque chose d'absolument essentiel, et de plus essentiel encore que son essence, c'est son être. Oui, cette chose très curieuse dans l'affirmation de l'acte, c'est qu'à la fois, d'après mon langage, je ne peux pas m'arrêter à mon langage, je ne fais pas la philosophie du langage, je fais la philosophie de la réalité. Et là, vous voyez bien ce que c'est que la philosophie du langage avec la philosophie de la réalité. La philosophie du langage est, s'ajoute. La philosophie de la réalité et exprime quelque chose d'encore plus radical que sa détermination, son existence, son acte d'être. C'est quelque chose de plus radical. Alors, je suis obligé, selon mon langage, il y a une distinction entre le nom et le verbe. C'est bien évident. Et ceci dans toutes les langues. Il y a une différence entre le nom et le verbe. Et le nom vient s'ajouter. Mais le nom s'ajoute comme quelque chose qui est radicalement plus la réalité que le nom, que la détermination. Je suis bien obligé de le reconnaître. Hein. Si je dis seulement ceci, je ne dis pas si ceci est ou n'est pas. Si ceci n'est pas, j'exprime quelque chose en disant ceci. Mais si je dis ceci n'est pas, je sais bien que ceci ne peut exister alors que dans mon intelligence, puisque je le dis. Donc le ceci a deux manières d'exister, dans la réalité et dans mon intelligence. Je ne précise pas ceci. Et ceci est, je dis tout de suite, que ceci est indépendamment de moi. Il est. Et je respecte son existence. Parce qu'il est. Et il est, non pas par moi, il est par lui-même. Ceci est par lui-même. Je respecte son existence. Tandis que quand je dis ceci n'est pas, bon, je dis ceci, c'est mon intelligence qu'il comprend. Mais il n'est pas dans la réalité. Donc, tout détermination à deux manières d'exister. Dans mon intelligence, quand j'affirme ceci, si mon langage veut dire quelque chose, si mon langage veut dire quelque chose, le ceci détermine quelque chose. Le ceci peut à la fois exister uniquement dans mon intelligence, il n'est pas dans la réalité. Au contraire, ceci est, il est dans la réalité. Et quand je dis qu'il est dans la réalité, je dis qu'il est au-delà de moi. Il ne dépend pas de moi. L'existence d'une réalité ne dépend pas de moi. Quand je suis en face d'un homme qui existe, quand je suis en face de vous, votre existence, elle ne dépend pas de moi. Elle dépend de vous. Peut-être aussi d'un autre, mais elle dépend de vous. Parce que c'est vous qui êtes là. Et si vous êtes là, parce que vous voulez être là. Donc ça dépend de vous, votre existence. Elle vous appartient, votre existence. Elle est quelque chose de vous. La preuve, c'est que si je veux vous couper la tête, vous n'avez pas le droit. Ça m'appartient. Mon existence. Quelque chose qui est à la fois vous et quelque chose qui n'est pas vous. De moins. Pour celui qui affirme, il affirme que le ceci, quand il dit ceci est, il affirme que cette réalité est indépendante de vous et qu'elle s'impose à vous. Or, quand une réalité est indépendante de moi et s'impose à moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois avoir le respect. Il y a un respect de l'intelligence vis-à-vis de la réalité. Quand l'intelligence dit ceci est, l'intelligence respecte cette réalité. Même le petit crapaud, il existe en dehors de moi. Il m'embête. J'aimerais mieux qu'il n'existe pas sous mes pieds, parce que ce n'est pas très agréable de l'avoir tout près. Mais je le respecte, il existe. C'est très curieux comme affirmation. Vous voyez, et si je réfléchis bien, je comprends à partir de là ce que c'est que l'être en acte. J'ajoute à la détermination quelque chose de capital, plus important que la détermination, plus radical que la détermination, et quelque chose indépendamment. L'être en acte est extérieur à moi et ne dépend pas de moi. Ce n'est pas l'être en acte qui dépend de moi, c'est le ceci, quand je l'affirme et que dit ceci n'est pas, le ceci n'existe que dans mon intelligence. Alors, je recherche la différence qu'il y a d'exister réellement et n'exister que dans mon intelligence. Je suis bien obligé. Ce que je dis, l'affirmation ceci, existe réellement ceci est, ou ceci n'est pas. Quand vous dites « ceci n'est pas », vous voulez dire que le « ceci », le crapaud, le mouton, n'importe quoi, le « ceci » n'existe que dans mon intelligence. Et vous faites cette distinction qui est capitale entre exister seulement dans l'intelligence et exister dans la réalité. Je crois que ça, on peut tous le comprendre. Mais quand on est idéaliste, on ne fait plus la distinction. Vous voyez l'idéalisme, il naît là. Tout ce que je pense existe. même Dieu fait cette distinction par sa volonté. Ce qui existe dépend de sa volonté. Il peut y avoir des choses qui existent et qui ne sont que dans son intelligence. C'est une distinction fondamentale. Vous voyez, c'est le réalisme, ça. Le réalisme prend sa naissance dans cette distinction entre ce qui est purement dans mon intelligence et quelquefois purement dans mon imagination. Hein. Ça existe, hein, mais c'est bien difficile de voir la différence. Quelque chose qui est purement dans mon imagination. J'ai imaginé un merveilleux voyage et je crois qu'en effet, je rêve. Hein. Je ne fais plus la distinction entre le rêve et la réalité. Ça existe. Il y a des gens qui ne font plus la distinction entre les deux. L'idéalisme se construit sans cette distinction. Tout ce que je pense, tout ce que j'imagine existe. Ah, ils ne le disent pas comme ça. Hein. Ils ne le disent pas comme ça. Ils disent toujours telle réalité. Je la pense, elle est. Et c'est pas la même chose que penser une chose et comprendre que cette chose existe. Oui, j'insiste, parce que c'est important de voir sur quoi repose le réalisme. Quand on parle d'une philosophie réaliste, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire justement qu'il y a une distinction entre le ceci et ceci est. C'est jeudi à Fribourg, mes étudiants m'ont dit, le professeur qui donne les cours après vous, je le connaissais bien, dit qu'il n'y a pas de distinction entre ceci et ceci. Parce qu'il était pris par la phénoménologie. Alors, est-ce que vous ne pourriez pas vous trouver avec lui, devant nous, et qu'on ait une petite lutte entre les deux professeurs, celui qui dit qu'il y a une distinction entre ceci et ceci est, et celui qui dit qu'il n'y a pas de distinction entre le ceci et ceci est. Et ça a eu, puisque les étudiants le désiraient, je l'ai demandé au professeur s'il acceptait. Mais il a dit oui, oui, très bien. Alors on a fait tout un cours là-dessus. C'était intéressant parce qu'il y avait l'adversaire qui tenait absolument que ceci et ceci est, il était husserlien. Parce que c'est Husserl fait ça. Husserl dit que la philosophie, que la phénoménologie met entre parenthèses et le verbe être. Et donc, ceci et ceci est, c'est la même chose. Et quand on dit ceci, on ajoute quelque chose, mais ça ne tient à rien, ça ne change rien. Et c'est vrai au point de vue de la détermination. Vous voyez ? Alors ici, je pousse pour voir d'où vient l'erreur. C'est intéressant, parce que cette erreur existe. Elle existe d'une façon très forte. Je pousse. Pourquoi il y a cette erreur? Parce que l'acte n'ajoute rien à la détermination. L'acte actue. C'est facile à dire que l'acte actue. Et ne détermine pas. Donc, je peux distinguer, au point de vue de l'intelligence, le point de vue de la substance qui détermine, l'essence qui détermine, et le fait que cette essence existe, elle est. Le ceci détermine. C'est la détermination. Si ma parole signifie quelque chose, ceci veut indiquer quelque chose. Je le montre. Ceci, crapaud, table, homme, tout ce que vous voulez. Tout ça a des déterminations. La détermination est autre chose que l'acte d'être. L'acte d'être ne détermine pas. Il est acte. Et c'est très important pour l'hygiène profonde de notre intelligence. Hein. Il y a une différence entre l'eau chaude et l'eau froide. Hein. Vous pouvez montrer qu'il y a une différence entre la détermination, c'est l'eau froide, l'eau froide, et l'acte, c'est l'eau chaude. Bon, il y a une différence entre les deux. Quand je dis ceci est, couramment, hein, vous faites ça tout le temps entre vous. Quand vous racontez des histoires marseillaises, hein, vous racontez, on dit, hey, va, marche toujours, ça n'existe pas tout ça. Vous dites, ah, pas du tout, ça existe. Et vous affirmez, ça existe. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ça existe? Ça veut dire que cette détermination est réelle dans la réalité, qu'il y a quelque chose que vous pouvez vous-même constater. Tandis que quand vous racontez une belle histoire, et que vous désirez, et que naïvement vous dites aux Marseillais, naïvement, je voudrais bien voir ça. Ah oui, l'autre répond, mais tu peux te lever très tôt hein, pour voir la chose. Tu ne la verras pas. C'est de l'imagination. Et l'imagination, très vite, on la considère comme la réalité. Des êtres qui s'imaginent, très vite. Il y a beaucoup d'êtres comme ça. Pour eux, l'imagination, détermination, ça existe. Alors quand on fait ça à froid, on distingue entre l'eau chaude et l'eau froide. Mais quand on fait ça à l'eau chaude, on ne distingue plus quelquefois. Quand on est pris par la passion. La passion ne distingue plus entre la détermination et l'acte. C'est là comment la passion complètement vous met dans les erreurs. La passion, c'est très beau. C'est très beau, les passions. C'est très beau un être passionné. Mais si vous réfléchissez, ah, attention, avant de m'engager, il faut savoir si c'est passionnel ou si c'est réel. Si c'est passionnel, je ne peux pas m'engager. Si c'est réel, ah oui. Vous voyez, cette distinction qui a l'air très simple et qui est très profonde, parce que c'est toute ma vie intellectuelle qui là s'exprime. L'appréhension, c'est le ceci. Le jugement, ceci est. Alors, où vous considérez que l'appréhension et le jugement, ce sont deux actes distincts, et que toute appréhension est ordonnée au jugement, ou bien vous dites l'inverse, tout jugement est ordonné à l'appréhension. Et vous arrivez à supprimer, à mettre entre parenthèses l'être. Parce que le verbe être, il est présent dans tous les verbes. Quand vous dites Pierre marche, le verbe marcher, Pierre est marchant. Alors vous voyez ce côté très curieux, c'est que ceux qui suppriment la distinction du verbe et du nom parle toujours du participe, l'étant. Non plus l'être, mais l'étant. Parce que vous pouvez prendre l'être comme une réalité que vous appréhendez. Vous ramenez le jugement à l'appréhension. et le verbe être présent n'existe plus, ça amène toujours au participe. C'est très curieux de voir ça et de le remarquer. Parce que la vie de l'intelligence, c'est l'appréhension et le jugement. J'appréhende des choses, des tas de choses. Je les connais, ça m'intéresse. Sauf quand c'est une chose nouvelle. Quand on va dans un pays étranger, quand on va en Afrique, on désire voir les animaux qu'on a vus dans un zoo, les voir en réalité. Et c'est pas la même chose. Hein. Un lion dans un zoo, c'est un lion muselé. Un lion dans la réalité, c'est pas la même chose. On fait toujours cette distinction-là. Le lion dans le zoo, c'est le participe. Hein. Le verbe n'existe plus. Il est muselé. Un lion muselé, un triste lion, il a perdu sa royauté. C'est vrai. Parce que sa royauté doit être uniquement dans le zoo. C'est une royauté qui n'est pas précisément celle de l'animal, du lion, le roi des animaux. Il est chez lui, en pleine liberté. Il n'est plus muselé. Alors le présent existe à ce moment-là. C'est très curieux ça, et c'est très important, parce que ça libère notre intelligence de voir la distinction entre ceci et ceci. Vous le faites dans votre vie pratique. Celui qui cuit des légumes, il sait bien que ces légumes existent. Ils sont. Il ne va pas cuire uniquement la carotte. Ça ne s'occupe pas. C'est pour ça que je dis l'eau froide et l'eau chaude. Vous voyez, il y a là une distinction capitale dès qu'on a saisi l'être en acte. Je reviens tout de suite à mon affirmation. Ceci est, c'est regarder la différence qui existe entre la substance et l'acte. La substance me montre la détermination la plus parfaite. Et mais faisons attention, dans cette détermination la plus parfaite, l'existence est présente. Puisque je suis en métaphysique, l'existence est présente. Et j'explicite. Et je dégage l'acte. L'acte, ce n'est pas la détermination, mais c'est cette chose très particulière de montrer l'autonomie de cet être, son acte. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Tandis que je peux aller au-delà de la détermination. La détermination, c'est une détermination, mais je peux aller au-delà, puisque je peux aller sur l'acte. Parce que ceci et ceci est, c'est pas la même chose. Et donc j'affirme que je vais au-delà de la détermination. Je peux dire ceci est, et en disant ça, je lui donne une signification beaucoup plus forte. Et ce qui est intéressant, c'est que je donne une signification du « ceci » beaucoup plus profonde, parce que je montre que le « ceci » existe, tandis que de l'autre façon, je montrais que le « ceci » était uniquement pensé. Alors vous voyez que une philosophie du langage nécessairement s'appuie sur une philosophie de la réalité. Parce que le langage n'a d'intérêt que s'il s'appuie sur la réalité. Et vous montrez en même temps que la phénoménologie, c'est très intéressant, mais ce n'est pas suffisant, puisque vous ne regardez que le vécu. Donc, uniquement le ceci dans l'intelligence. Et le ceci qui existe dans l'intelligence ou dans l'amour, ce n'est pas le ceci réel qui existe. Vous voyez les limites d'une philosophie du langage et la limite de la phénoménologie. Il faut aller plus loin, il faut aller jusqu'à la réalité. Ceci est. Et là, si vous voulez bien comprendre cela, vous remontez tout de suite à la distinction entre l'appréhension et le jugement. Votre intelligence est capable de saisir ce qui est, le singulier qui existe. Vous le faites toujours, ça, comme distinction. Quand vous voyez quelqu'un que vous connaissez, vous lui serrez la main. Et qu'est-ce que vous voulez dire quand vous serrez la main à quelqu'un ? Tu es là, tout simplement. Tu es là, en face de moi. Je te vois, toi, en particulier. La réalité est au-delà de moi. Elle n'est pas moi. Et quand vous regardez l'autre uniquement selon votre manière de le regarder, en tant que vous le connaissez, vous ne le saisissez pas lui. C'est donc capital de bien saisir ceci est l'acte. Et vous voyez là parfaitement ce qu'est l'acte quand vous regardez la différence entre ceci et ceci est.